Père, pour ta parole, merci pour ceux qui nous l'ont transmise. Merci pour toute cette chaîne de transmission. Merci de nous inclure dans cette chaîne maintenant. Amen. Je vais prendre comme texte celui que Sophie vous a lu au début de ce culte, le psaume 131. Cantique des montées de David. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur, ni de merveille qui me dépasse, non. Au contraire, je tiens mon âme aplanie et en silence, comme un enfant sevré contre sa mère, comme un enfant sevré, telle est mon âme contre moi. Espère, Israël, dans le Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Les commentaires que j'ai lus sur ce psaume sont unanimes pour dire qu'il y a ici un joyau, un petit bijou. Ce psaume très court décrit l'état spirituel de notre âme, l'état idéal. D'ailleurs, beaucoup de spiritualités cherchent à vous donner ça. À vous, par exemple, je mange une petite sœur qui a étudié la naturopathie et hier elle m'a envoyé plein de photos pour faire un stage pour des gens qui veulent trouver la paix intérieure. Alors, ils boivent dans des bols tibétains qui ont une certaine sonorité, ils s'allongent par terre, ils se promènent dans la nature. Ils jeûnent, ils boivent du jus de légumes, du jus de fruits, bref, tout pour acquérir une sérénité. Et ce psaume décrit une sérénité telle qu'on aimerait bien la vivre, n'est-ce pas? Et il compare cette sérénité à une âme d'un enfant sevré. L'objectif vers lequel nous allons, que Dieu a donné à son peuple Israël, est décrit au chapitre 66 de Ésaïe, du prophète Ésaïe. Je lis quelques versets dans Ésaïe 66, versets 11 et 12. « Réjouissez-vous avec Jérusalem et jubilez à cause d'elle. » Soyez joyeux avec elle, de la joie de tous ceux qui avaient pris le deuil sur elle. Vous serez allaités et rassasiés du sein maternel de ses tendresses. Comme un homme que sa mère console, moi, je vous consolerai. C'est dans Jérusalem que vous serez consolés, vous têterez sur son côté, vous serez cajolés sur ses genoux. Voilà donc une prophétie que Ésaïe donne à Jérusalem, qui aujourd'hui est dans la tourmente, dans le deuil. Comme un homme que sa mère console, moi, je vous consolerai. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Leur Algérie ». C'est un film entièrement tourné à Thiers. J'ai lu la femme algérienne qui était la héroïne de ce film. Enfin, la héroïne, le personnage principal, avec son mari d'ailleurs. Ils ne vivaient plus ensemble, mais la petite fille a fait un film sur sa grand-mère ici. La petite fille qui a appris le cinéma. Dans ce film, leur Algérie, entièrement tourné à Thiers, on voit cette maman algérienne assise, et puis son grand garçon, qui doit avoir 35-40 ans, il est allongé, il a sa tête sur les genoux de sa maman. Voilà, ça peut arriver même à 35-40 ans. Bien, ça, c'est l'image de la sérénité que nous donne la Bible. Et cette sérénité aura lieu à Jérusalem. Cette sérénité, elle est promise par le Seigneur. à Jérusalem pour tout être humain qui viendra là. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais alors, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, que faire de la dernière phrase de ce psaume? Espère Israël dans le Seigneur, dès maintenant. Alors, là, ça nous fait réfléchir. Espère Israël dans le Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Donc, cette promesse de Dieu à Jérusalem, qu'il y aura là la consolation, une tendresse qui nous calmera, qui nous donnera une sérénité, que celle que nous avons toujours espérée, celle derrière laquelle tout le monde court vers la sérénité, vers la paix intérieure, tout le monde cherche ça. Eh bien, Dieu l'a promise à Jérusalem. Mais ce psaume nous dit, vous espérez maintenant, Israël, espère maintenant dans le Seigneur. Alors, est-ce que c'est possible maintenant de déjà vivre un avant-goût, de vivre déjà de cette réalité d'une âme qui est en paix, une âme qui est aplanie et en silence? Aplanie, vous comprenez ce mot aplanie, une âme aplanie? Ben, quand vous avez peur, quand vous êtes angoissé, c'est comme un gouffre, n'est-ce pas? Vous êtes absorbé par un gouffre. Ou bien quand votre âme est trop fière, elle se sent au-dessus de tout le monde, en sécurité, elle est comme une montagne. Mais une âme aplanie, c'est une âme qui est ni dans un abîme, ni au sommet d'une montagne, mais dans une plaine réceptive à la gloire, à l'amour de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible de personnes qui ont vécu cette paix de leur âme? Eh bien, oui, et il y en a même beaucoup. Et paradoxalement, ce sont des personnes qui ont eu des vies très mouvementées, des vies avec beaucoup de combats, des vies où leur âme était déchirée. Alors, je ne peux pas vous donner tous les exemples dans la Bible, mais on va commencer par David, puisque c'est à lui qu'est attribué ce psaume. Au début, on dit « Cantique des montées de David ». David, je ne sais pas si vous connaissez la vie de David. David, c'était le deuxième roi d'Israël. Il a été pourchassé par le premier roi qui était encore en place, qui voulait lui faire la peau. Et vous savez ce que c'est quand on... Non, vous ne savez peut-être pas, parce que moi non plus, je ne sais pas. Mais on peut imaginer qu'est-ce que c'est la vie de quelqu'un qui est pourchassé et que quelqu'un d'autre veut sa mort. Voilà. Et parfois, ils étaient l'un à côté de l'autre. Mais c'est David qui dit, dans 2 Samuel 6, les mêmes mots qui sont dans ce psaume, « Je me suis abaissé. Je me suis abaissé. » Il a aplani son âme. Il le dit à un moment donné où une de ses femmes, Michal, à l'époque les rois avaient plusieurs femmes, une de ses femmes, Michal, l'a méprisé parce qu'il avait exprimé sa joie sans retenue quand il a emmené l'arche de l'Alliance, le coffre où il y a le témoignage de Dieu, il l'a emmené à Jérusalem. C'est lui qui a amené à Jérusalem le coffre de l'Alliance de Dieu, le signe de la présence de Dieu à Jérusalem. C'est lui. Et il l'a fait avec tellement de joie qu'il a dansé, qu'il sautait, qu'il bondissait. Et sa femme le voyait de la fenêtre. Elle a dit, mais c'est ça mon mari, danse devant des femmes, devant des enfants, comme si c'était un gamin. Alors, quand elle lui a fait cette remarque, il a dit ça. C'est devant le Seigneur que j'ai dansé et je suis prêt à me montrer encore plus vil et à m'abaisser encore plus à mes propres yeux. Donc, nous voyons David qui son âme, elle était aplanie devant Dieu, malgré toutes épreuves qu'il a vécues dans sa vie. Il en a vécu même dans sa propre famille. Mais son âme était aplanie devant Dieu. Ne s'élevez pas, ni devant Dieu, ni devant les hommes, comme vous venez de l'entendre, puisque sa femme lui a dit qu'il ne s'était pas comporté comme un roi se comporte devant ses sujets. Et le psaume suivant, le psaume 132, commence ainsi, « Seigneur, souviens-toi de David et de sa constante humiliation. » Constante humiliation du roi David. Il a vécu ce psaume malgré tout ce qui aurait pu être des abîmes en lui, ou il pourrait être très fier puisqu'il était devenu le roi. Il a unifié les 12 tribus d'Israël, il a conquis des nations ennemies, il a établi une paix assez durable. Ça n'a pas duré puisque son fils après n'a pas suivi la même humiliation, la même aplanissement de l'âme devant Dieu. Donc David a vécu cette chose, malgré tout ce qui aurait pu faire qu'il soit tout le temps dans l'angoisse, ou même dans la paranoïa, ou dans l'orgueil, voilà, ou dans la vengeance. Non, il avait une âme aplanie, une âme disponible, silencieuse, attendant le secours de Dieu, espérant dans le secours de Dieu. Il y a un autre personnage dans la Bible à qui ce psaume peut être attribué, qui a vécu, en tout cas ce psaume qui nous dit que c'est possible aujourd'hui de vivre une sérénité même dans les pires circonstances de la vie, ou même en temps de guerre, c'est Jérémie. Jérémie, c'est le prophète dont nous avons le plus de choses sur ce qu'il a vécu intérieurement comme épreuve. Bon, les épreuves extérieures sont décrites aussi, mais il a été appelé par Dieu avant sa naissance. Dieu l'avait choisi avant sa naissance. Et il est devenu prophète très jeune, et pendant des dizaines d'années, pendant une période où, similaire à celle que nous vivons aujourd'hui, où des royaumes basculent, où tout peut être détruit, tout ce qui a été construit depuis des dizaines ou des centaines d'années peut être ravagé, détruit. Eh bien, lui, il a vécu une période semblable, le prophète Jérémie, depuis tout jeune. Et les circonstances qu'il devait traverser ont fait que Dieu lui a dit « Ne te marie pas, ne te marie pas, tu ne pourras pas avoir ce ministère de prophète, être persécuté de l'intérieur, dans ta propre famille, être persécuté par tes compatriotes si tu es marié. Il faut que tu restes seul, célibataire. » Et il a vraiment écouté, il a reçu la parole de Dieu, parfois sans vouloir même la recevoir, et il était chargé de la transmettre. Et quand il ne voulait pas, il ne pouvait se contenir, la parole sortait de lui, elle était mise sur la place publique, il a appelé le peuple à la conversion, il a appelé le peuple à mettre son espoir en Dieu, à rejeter les idoles, à cesser leurs injustices sociales entre eux. Il n'a pas été écouté. Et il a eu beaucoup, beaucoup de souffrances, beaucoup de questions à l'intérieur de lui. Il criait vers Dieu. Et il a été lui-même mis en prison, il a failli être tué plusieurs fois. Donc, vous voyez que lui, il n'aurait pas pu normalement dire ce psaume. Et pourtant, on trouve dans Jérémie 33, au verset 3, cette parole de Dieu à Jérémie. « Crie vers moi, et je te répondrai. Je te ferai connaître de grandes choses, des choses inaccessibles que tu ne connais pas. » Et c'est cette expression qu'on trouve ici dans notre psaume. Je n'ai pas cherché des grandes choses. Jérémie, Dieu lui a révélé de grandes choses. Mais quand les malheurs sont arrivés, puisque le peuple n'a pas écouté, tout ce que Dieu avait annoncé comme destruction, comme malheur, c'est arrivé et lui-même les a vécus. Il n'a pas été épargné. par ses malheurs. Alors dans le malheur, Dieu lui dit ceci, dans Jérémie 45, verset 5, « Toi, tu demandes de grandes choses, ne les demande pas, car me voici, je suis en train de faire venir un malheur sur tout être humain, oracle du Seigneur, et à toi, je te donnerai ton âme comme butin dans tous les endroits où tu iras. » Donc il est arrivé un moment dans sa vie où il ne pouvait plus espérer comprendre les plans de Dieu. Il n'avait plus de révélation là-dessus. Il devait simplement se confier en Dieu que lui, sa vie, Dieu la préservera. Et on voit des gens qui échappent à des catastrophes miraculeusement. C'est ce qui est arrivé pour Jérémie. Donc il a lui aussi aplani son âme. Il a cessé de vouloir comprendre comment Dieu agit dans l'histoire, et par contre, il avait la certitude que Dieu gardera son âme. Je vous ai parlé de David, je vous ai parlé de Jérémie, je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'exemples. Je vais en choisir seulement un troisième. C'est celui pour lequel nous avons un livre très grand dans la Bible, un livre qui a 42 chapitres, c'est Job. Job, lui, il lui est arrivé catastrophe sur catastrophe, très rapidement, tous ses enfants exterminés, il a tout perdu, il était bien, il avait une bonne situation, tout perdu. Et puis, après une maladie en plus, une maladie qui était très douloureuse. Il a prié, il voulait voir Dieu, il voulait une rencontre avec Dieu. Et puis sa souffrance a augmenté parce qu'il y avait des amis qui sont venus pour le consoler, mais qui en fait sont devenus des gens qui le déstabilisaient parce qu'ils lui disaient, mais certainement, si tu as tous ces malheurs, tu dois certainement avoir fait un péché que tu dois confesser à Dieu. Et lui, il a dit, non, je ne vois pas. Je continuerai à parler à Dieu. Et au bout d'un moment, ça a duré longtemps, il y a beaucoup de chapitres entre lui et ses amis qui cherchent d'une mauvaise façon à le persuader que Dieu a raison de lui infliger tout ça. Et lui, il me dit non, je veux savoir, je veux connaître Dieu, je veux qu'il me parle. Vos réponses ne me consolent absolument pas. Et à un moment donné, Dieu se révèle à lui. C'est assez curieux ce que Dieu lui dit. Mais voici ce que Job dit après, au chapitre 42, versets 3 et 5. « J'ai abordé, sans le savoir, des choses trop merveilleuses que je ne peux pas connaître. J'ai entendu ce qu'on peut entendre quand on parle de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Et là, ça a aplani son âme. Là, son âme est devenue aplanie. Et en silence, il a arrêté de parler, son âme est devenue aplanie et en silence. Et il s'est rendu compte que tout ce qu'il a dit de Dieu, c'était pas faux, mais c'était trop merveilleux. Et Dieu lui a répondu, je vous ai dit que la réponse de Dieu est un peu curieuse, parce que Dieu lui parle de la nature, lui parle de la création. Déjà, rien qu'en considérant la création, si on était capable de nouveau, l'homme moderne a tellement découvert de choses sur la création qui devraient nous émerveiller. Hier soir, il y avait une éclipse partielle de la Lune. Georges m'a dit, ça arrive tous les 15 ans. Et quand on observe tout simplement la façon dont fonctionne la création, ça nous dépasse. Les scientifiques trouvent toujours plus de choses dans la création, mais toujours, et tous les scientifiques authentiques disent, il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas. Plus on connaît et plus on ne connaît pas, parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des constantes dans la création. Des réglages très très précis qui font que les choses existent, que la création existe. Et ça, on ne peut qu'être émerveillé. Ce sont des choses trop merveilleuses. Personne ne peut comprendre ça. On n'aura jamais fini de le comprendre. Parce que c'est Dieu qui a créé ça. Mais non seulement la création est trop merveilleuse, mais même notre salut, il est incompréhensible quelque part. Comment imaginer que Dieu soit né de la Vierge Marie? Jésus, le Fils de Dieu, est né de la Vierge Marie. Elle n'a pas enfanté seulement un homme, elle a enfanté Dieu dans ce monde. Comment comprendre ces choses pareilles? Comment comprendre que la résurrection de Jésus, c'est une véritable nurserie? Nous sommes nés de Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui dit ça dans Acte 13. Dieu nous a engendrés en lui-même. Comment comprendre ça? Mais la Bible nous dit ces choses. Elle nous dit ce qui n'est pas compréhensible, mais qui est juste à accepter comme vrai. Et le Saint-Esprit nous aide à accepter cela comme vrai, car Jésus n'est pas mort sans répandre sur nous, sur toute chair, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre que nous avons été engendrés de Dieu. C'est trop grand, mais on peut le croire. On peut croire quelque chose qu'on ne comprend pas. Nous fonctionnons comme ça pour bien de choses. Vous comprenez, vous, comment ça fonctionne, l'informatique? Mais on y croit puisque ça marche. Eh bien, le salut, ça marche. Mais on ne le comprend pas. On ne comprend pas comment Dieu peut nous engendrer en lui-même. Quand il y a eu le Covid, il y a eu une communauté chrétienne en France qui a été stigmatisée, accusée d'avoir propagé le Covid dans toute la France et même dans l'Europe. C'est la communauté chrétienne de Mulhouse. Et beaucoup de collaborateurs du pasteur Samuel Peter Schmidt sont morts. Je crois qu'il y en a une quarantaine sont morts. Lui a failli mourir et il était tout proche de mourir. Et les médecins d'ailleurs avaient arrêté de vouloir espérer le guérir. Le Seigneur est venu, il l'a guéri. Et quand il a témoigné après ça, il a dit, on parle trop vite de Dieu. On sentait que pour lui, il avait fait l'expérience de Dieu qui avait aplani son âme, qui avait rendu silencieuse son âme. Il dit, on parle trop de Dieu. On parle trop facilement de Dieu. Il est incompréhensible, il nous sauve, mais il a des projets que nous, on ne connaît pas. Et ce sont des projets de paix, ce sont des projets de bonheur pour l'humanité. Mais ne parlons pas trop facilement de Dieu. Parfois, on a l'impression que dans les églises, surtout évangéliques, tout le monde sait comment ça fonctionne, la nouvelle naissance. Voilà. Donc, tu viens, tu confesses tes péchés, tu acceptes Jésus comme sauveur, ça a été né de nouveau. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, puisque c'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment ça fonctionne, puisque c'est la résurrection de Jésus. Quelqu'un peut comprendre la résurrection de Jésus? Quelqu'un peut comprendre l'incarnation de la parole éternelle de Dieu dans la Vierge Marie? Quelqu'un peut comprendre ça? Mais ça, c'est la nouvelle naissance. Jésus est venu et il a parlé de cette nouvelle naissance à Nicodème. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Je vais trouver la référence, c'est dans Jean chapitre 3. On marque une petite pause, donc ça fait pas de mal si c'est Jean chapitre 3. Je vais vous trouver le texte, je ne vais pas le citer de mémoire. La première chose dont Jésus a parlé quand il a commencé à enseigner. Jean chapitre 3. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Souvent, on n'entend pas ce verset. Jésus dit bien que quiconque est né d'en haut et qui est né de l'Esprit, il ne se comprend pas lui-même. C'est un mystère qu'on soit né de Dieu. Mais Jésus révèle ce mystère. Mais en le révélant, ça reste un mystère. Vous comprenez bien ça. Je regardais ma petite fille qui passait avec le lila et m'a passé avec de l'eau sur une feuille. Il y a tout un tableau qui apparaît sous la feuille. Avant, on voyait une page blanche en mettant de l'eau. Il y a un magnifique tableau. Mais Jésus est venu nous révéler ce magnifique projet de Dieu qui est d'avoir des enfants, de nous faire naître à nouveau encore, pas seulement de notre père ou de notre mère, mais de lui. Et c'est lui, Jésus, qui a accompli ça. Mais ne disons pas que nous l'avons compris. Ne disons pas que nous nous comprenons nous-mêmes. Et c'est pour ça que dans ce psaume, David parle à son âme. Il faut faire attention que l'âme est comme un enfant sevré, il dit, contre sa mère. Mon âme est comme un enfant sevré contre moi. Il parle lui-même de son âme comme s'il était la maman de son âme. Mon âme est contre moi comme un enfant sevré. Et remarquez bien, ce n'est pas un bébé qui allaite, c'est un enfant sevré. Un enfant sevré, c'est vers l'âge de 3 ans à l'époque. Et donc, la maman, après avoir allaité son bébé, elle peut par la suite garder ce bonheur de l'avoir contre elle, même s'il n'a plus besoin de téter. Bien ça, c'est le bonheur qu'on expérimente par Jésus à Jérusalem où il est mort, ressuscité. C'est le bonheur que Dieu aime nous avoir auprès de lui. Pas seulement pour nous donner à manger, pour nous donner sa parole, pour que nous nous nourrissions de sa parole, bien sûr, c'est ce qu'il y a à faire, mais une fois nourri, sevré, complètement rassasié, l'enfant reste auprès de sa maman et la maman éprouve du bonheur à l'avoir près d'elle. Même si ce n'est pas pour un but utilitaire, ils sont heureux d'être ensemble tous les deux, l'enfant et sa mère, même l'enfant sevré. Je vous ai parlé de cette maman algérienne qui recevait encore son fils. Et dans le film, on voit ce fils qui a sa tête sur les genoux de sa maman. Ils ont mis ça dans un film. Voilà. Et bien, Dieu est comme ça. Il aime être proche, tendre avec nous. Et comme David connaît cette nouvelle naissance, il parle à son âme. Nous pouvons parler, nous aussi, à notre âme pour l'aplanir. Et comment? Comment on peut l'aplanir? Comment on peut la rendre silencieuse et réceptive à la tendresse de Dieu? David donne trois éléments et au début du psaume. Mon cœur ne s'est pas élevé. Ça, c'est tout simplement synonyme de l'orgueil devant Dieu. Voilà, Dieu est notre débiteur. Voilà, non, notre cœur ne s'est pas élevé. Ça aplanit l'âme devant Dieu. Le deuxième piste que David donne, je n'ai pas eu de regard hautain. C'est quoi un regard hautain? Ça, c'est surtout par rapport aux autres. Les gens qui se comparent aux autres, et ça, on le fait tout le temps. Et les croyants le font aussi, malheureusement. Se compare aux non-croyants, se croient supérieurs aux non-croyants. Nous savons bien cette idée que vous êtes supérieur aux non-croyants. Et combien de fois on touche ça du doigt dans les églises? Pas de regard hautain sur les autres. Ça aussi, ça aplanit l'âme. Ça la rend silencieuse, réceptive à la grâce et à la tendresse de Dieu. Jésus a témoigné, parfois, en gardant silence quand il était agressé verbalement. Ça ne l'a pas empêché d'aimer ceux qui l'agressaient. Et la troisième indication que David nous donne dans ce psaume, « Je n'ai pas pris un chemin de grandeur ni de merveille qui me dépasse. » Là, je pense qu'il parle justement de cette nouvelle naissance. Puisque les merveilles, quand ce mot est utilisé dans la Bible, la première fois qu'il est utilisé, c'est quand Dieu visite Abraham et Sarah et il leur dit, est-ce qu'il y a une chose qui est trop merveilleuse pour le Seigneur? Genèse 18, verset 13. C'est l'annonce de la naissance d'un enfant à un couple qui était stérile depuis toujours et qui avait largement la femme, Sarah, avait largement dépassé l'âge où elle pouvait enfanter. Eh bien, ils ont eu un enfant sur la parole de Dieu. Et cette phrase à Sarah, est-ce qu'il y a une chose trop merveilleuse pour le Seigneur? Elle est répétée par l'ange Gabriel à Marie. Aucune parole n'est impossible auprès de Dieu, dans Luc 1, 37. Voilà, nous ne pouvons pas comprendre des choses trop merveilleuses, des choses qui sont trop grandes pour nous, mais nous pouvons les accueillir, n'est-ce pas? Nous pouvons les accueillir. Et Marie, elle a dit, oui, j'accueille ce que vous dites, vous, l'archange Gabriel, j'accueille. Qu'il me soit fait selon votre parole, nous pouvons dire la même chose. Je voudrais finir avec un verset que j'ai longtemps pas compris dans 1 Corinthiens 13, verset 7, qui parle de espérer. C'est le dernier verset de notre psaume. Israël, espère dans le Seigneur dès maintenant et pour toujours. On peut toujours espérer. C'est toujours possible. Et pourquoi? Et pourquoi c'est toujours possible? Nous avons la réponse dans 1 Corinthiens 13, verset 7. C'est en deux mots, en trois mots. L'amour espère tout. Qui permet de toujours espérer, c'est qu'on est sûr de l'amour de Dieu.